Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Et bonjour à tous, c'est Capture Mag, le podcast hebdo du tout début juin 2017. Et nous avons gardé que les meilleurs ce soir. Forcément d'ailleurs, ils sont tous très bons.
Arrête, ils nous écoutent, après ils vont se plaindre.
Les gens vont se demander, mais qui sont les meilleurs?
Ouais, bah, les meilleurs c'est Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Salut David.
Et c'est Julien, bonsoir Julien.
Bonsoir.
Et on salue évidemment Rafik, on salue Arnaud. On salue tout le monde, on salue Yannick aussi, qui est un habitué de l'émission, et qui ce soir n'était pas dispo parce qu'il est tombé en panne de scooter.
Ouais, apparemment, il y a plus d'essence dans Paris en ce moment.
Ouais,
c'est
la pénurie d'essence.
C'est Mad Max 4, quoi.
C'est ça. Donc comme Yannick, a priori, ne sait pas marcher, il est...
Non, mais il habite loin, il habite en banlieue.
Hop.
Comme toi.
Sauf que moi j'ai une voiture électrique, c'est pour ça que je peux toujours venir.
Un homme moderne. Voilà. Ouais.
Exactement.
Tu survivras à l'apocalypse.
Et j'espère. Alors ce soir on va parler de The Wall de Doubly Man. On va parler de Perfect Blue de l'excellentissime Satoshi Kon, mais un peu mort quand même. Et de
c'est
une bonne blague.
C'est un peu austère.
Et de Injustice 2.
Il n'y a plus personne avec nous là. Ça y est, les gens ont arrêté.
Injustice 2 qui semble être un jeu vidéo. Hein, n'est-ce pas?
Non, t'es pas au courant?
Si, des images. Ok, alors, moi j'ai une petite annonce à faire car j'ai toujours une petite nuit ou une petite soirée à vous proposer. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On démarre là-dessus.
Est-ce qu'on peut te dire non?
Non,
bah,
on
voilà, peut pas. Problème,
alors, déjà, je voudrais remercier le magnifique commentaire sur le site de Capture Mag de mon ami Roland Emmerich qui m'a défendu.
Enfin,
le vrai.
On a envie de dire enfin.
Et qui a défendu mon point de vue du cinéma. Donc, je le remercie de vive voix. Et puis.
On reconnaît bien sa générosité, tu vois.
Et, tout à fait. Et son style inimitable. Mmh. De Google Traduction. Et puis sinon, j'ai des soirées à venir. Alors les soirées qui viennent, la semaine prochaine, c'est la nuit des étoiles, toujours, hein, donc toujours avec Stargate, toujours avec Starship Troopers qui fête ses 20 ans, et Alien 4 qui fête aussi ses 20 ans. Alors j'ai une petite précision, c'est qu'Alien 4, on va le passer en 35 mm, ça c'est plutôt cool, et pas n'importe quelle copie, puisqu'on a la copie du réalisateur. Jean-Pierre Jeunet nous a prêté sa copie.
Alors, ce qui vaut le coup, parce qu'il n'est pas content du tout du Blu-ray.
Exactement, il n'est pas content du Blu-ray, et donc il avait un peu peur que la copie que nous ait passée la Fox, copie 35, soit pas très bonne. Alors il a dit, moi j'ai une copie qui a peu tourné, je vous la passe, comme ça au Max Linder, ça sera la meilleure.
Super, ça.
Et je croise les doigts pour qu'il vienne parrainer la soirée. Il a dit que s'il était disponible, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, il viendrait. Donc
ça vaut le coup. Quoi.
Ça, c'est la surprise.
Ça vaut le coup de passer Alien 4.
En tout cas, ça vaut le coup de passer Alien 4 parce que pour le coup, y a un peu d'actualité Alien et vous verrez que Alien 4 est pas si mal par rapport à ce qui est sorti récemment, j'ai l'impression. Et puis de toute façon,
Royaume des aveugles. Hein.
C'est ça. Et de toute façon, ça vaut le coup de revoir un film de ce type en 35 mm sur un écran comme le Max Linder. Et puis surtout, ça vaut le coup de revoir.
C'est la photo de Darius Conji.
Exactement.
Quoi,
qui nous a aussi dit qu'il passerait peut-être s'il était dispo.
Ah,
comme quoi, voilà, peut-être toute l'équipe technique.
Il est très très fier. Il est très fier de la lumière du film.
Il a de quoi. Hein,
oui,
très très
clair,
belle. Elle est très très belle.
J'adore comment il a éclairé les aliens. Ça, c'est.
Joss Whedon n'est pas très fier du scénario, par contre.
Pourtant, ça préfigure beaucoup de choses qu'il a fait après. Donc.
Oui.
Mais bon. Oui. C'est Joss. Ouais. Et il viendra pas samedi prochain. Alors, en dehors de ça,
étonnamment.
On a annoncé la nuit au max du 1er juillet. Alors ça, je vais vous en parler très très vite. C'est une nuit requin, spéciale requin, dans laquelle on ne peut pas faire autrement que de passer Jaws, un film qu'on adore tous.
David, si t'avais des couilles, t'aurais passé Jaws 4.
Mais j'aurais aimé, en fait. Mais ouais. j'ai même proposé, alors peut-être pas
à
le 4.
À la place de Jaws.
Mais je voulais faire la trilogie Jaws et passer le 3 en 3D.
Oh là.
Et j'ai eu, et j'ai
été
eu,
bien ça.
Mais j'ai eu une levée de telle levée de bouclier de
non,
mes collègues.
C'est dommage.
Je pense que c'est très dommage. Bon, on va se rattraper parce qu'on va passer d'autres films intéressants, surtout à voir sur le grand écran, parce que pour le coup, c'est pas des films qu'on a, c'est des films qui ont pas eu leur chance sur au cinéma. Donc Jaws, ça, c'est indispensable. Derrière, on va passer Open Water, qui est un film très intéressant, je trouve, sur les requins.
Enfin, c'était sorti en salle, non ?
C'était sorti en salle, ouais. Mais ça a pas fait un énorme succès. Et un dernier film.
Même ça, aux États-Unis, ça avait marché, hein.
Ouais, probablement. En tout cas, en France, ça n'a pas été un énorme succès. Et donc, c'est un film que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et moi, je pense que ça vaut le coup de le voir. Surtout que c'est un film qui, moi, me fait très peur. Et on va finir.
T'as peur de l'eau ?
J'ai peur de l'eau, ouais. Mais pourtant, j'aime bien nager, mais je ne suis pas très à l'aise en mer.
D'accord.
Et The Shallows, qui sera le dernier de la soirée. Et The Shallows, qui est sorti l'année dernière, qui passait un peu inaperçu. Et je trouve que c'est pas juste.
Il y a un titre français, là.
Oui, et je ne m'en souviens plus. Mais ça, c'est pas grave. Je retrouverai.
Coupé, on rajoutera.
Exactement.
Je vais te le trouver.
Sinon,
ça m'énerve.
Alors, le truc le plus important, c'est la soirée du 16 juin. Parce que je démultiplie les soirées. C'est comme
Instinct de survie, Shallows.
Survie, exactement. Et ça, pour le coup, je l'ai découvert, puisqu'on en a beaucoup parlé. Et ça fait super la peur. Moi, j'ai adoré ce film. J'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Donc, sur grand écran, c'est pour préparer les vacances. Hein, vous qui allez partir à la mer, n'hésitez pas. Et sinon, donc, il y a la soirée du 16 juin. Et j'en terminerai avec les soirées. Alors, celle-là, elle vaut le coup d'œil aussi. Puisque c'est le retour de l'équipe de Starfix à l'Escurial Panorama. Et donc, on va refaire... en tout cas, on va commencer par faire une soirée Starfix. Donc, le 16 juin, c'est un vendredi soir à 20h. Donc là, pour une fois, vous n'avez pas la nuit à passer avec moi. Vous n'avez que la soirée. Et on va passer deux films emblématiques de l'équipe de Starfix parce que c'est eux qui vont faire la programmation. C'est Rambo de Ted Kotcheff et Evil Dead de Sam Raimi, le premier opus. Et donc, voilà, donc ça fait deux
c'est
films.
C'est quoi les copies, du coup
là, alors là, pour le coup, a priori, j'en suis à peu près sûr, c'est un DCP pour Rambo. Et pour Evil Dead, je crois que c'est un DCP aussi. Mais
oui,
je...
parce que Metro l'avait ressorti il y a
exactement,
pas si longtemps,
donc je pense que les deux seront un DCP.
C'est cool.
Ouais, et bon, Evil Dead, vous pouvez le placer en Blu-ray au cinéma, parce que franchement, la copie Blu-ray est parfaite. Et le film est...
Il n'y a pas Virus Cannibal.
Alors, ce que je dois dire, c'est que pour les prochaines soirées, si la première est un succès, donc on compte sur vous hein, pour venir, on va faire plein de trucs et c'est Christophe Lemaire, je pense, qui va beaucoup influencer la sélection des films.
Bien sûr.
Comme,
ça va être de qualité.
Ça risque d'être de la qualité. Donc Christophe Lemaire, ça sera donc la soirée étant Lemaireama, hein, c'est-à-dire que Christophe Lemaire sera là sur scène
en belgitude
totale et probablement en string, donc parce qu'il va faire chaud. Il y aura d'autres membres de l'équipe de Starfix. Alors je peux pas dire que Gans sera là absolument, mais en tout cas ils sont tous au courant, ils vont tous essayer de venir. Il y en aura plusieurs. Il y aura sûrement Hélène Méric, Fall, j'espère les autres, quoi. Enfin, j'espère tout le monde. Et comme ça, vous pourrez faire signer votre livre sur Starfix. Hein, venez avec. Hein.
On pourra faire quoi ?
Faire signer votre livre. Ouais, je sais, je m'enfonce. En tout cas, ça va être une soirée très cool. Vous allez sur le site des Nuits au Max, sur le Facebook des Nuits au Max, pour retrouver les infos là-dessus, ou alors sur le site des Écrans de Paris ou de l'Escurial Panorama. Donc voilà, vous avez la possibilité de trouver. C'est 15€ la soirée, avec probablement pas mal de petits bonus sympathiques. Je veux pas trop en dire.
Non, mais
je suis en train de récupérer justement plein de petits trucs à côté qui vont faire tout le sel de cette soirée. Peut-être des petits courts-métrages, des bandes-annonces, des choses que vous avez.
Faut passer le cours de Gans.
Mais on va passer des courts-métrages. C'est évident qu'on va passer plein de choses. Et voilà, je compte sur vous sur cette première soirée parce que si c'est un succès.
Star Force.
C'est le retour de la Star Force, ouais. Exactement. C'est comme ça que l'a présenté l'ami Christophe Lemaire, qui en plus reprend la plume pour faire les petits billets d'introduction des soirées. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Well.
C'est déjà pas mal. Et puis maintenant, on va passer au sommaire de cette émission. On va attaquer par The Wall. Julien.
Ouais.
The Wall de Doug Liman, qui sort en salle dans quelques jours,
c'est-à-dire
le 7 juin.
C'est étonnant d'ailleurs qu'il sorte en salle. Je crois qu'il sort. Il n'y a pas beaucoup de PU, je crois, où il sort en salle. C'est un tout petit film. Je crois qu'il l'a tourné en 17 jours, quelque chose comme ça. Et c'est un tout petit film aussi, ça s'est imposé par le sujet. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux snipers américains pendant la guerre en Irak qui se retrouvent à surveiller une ancienne zone de combat où apparemment il n'y a pas âme qui vive. Et après plusieurs heures, voire jours, en fait, où ils surveillent, ils essayent de regarder cette zone de combat, il y en a un des deux qui décide d'y aller. Et en fait, ils sont pris en chasse par un sniper qui était toujours embusqué dans un coin non déterminé et qui va, en fait, les contraindre à rester dans un espace extrêmement limité qui va devenir le fameux wall du titre, c'est-à-dire une portion de mur tout à fait minuscule.
C'est un film à concept, quoi.
Voilà, c'est un film à concept. Encore une fois, tourné avec une économie de moyens, dans une économie de temps extrêmement serrée. Ce qui, d'un côté, c'est plutôt une bonne chose pour Doug Liman, parce que moi, je trouve que... Alors, moi, je suis très partagé sur Doug Liman. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des choses assez correctes, notamment son avant-dernier film. Edge of Tomorrow, que je trouvais potable, même s'il s'enlisait totalement dans la smoule dans le dernier acte.
C'est lui, c'est le copain de Tom Cruise, alors.
Le nouveau.
Ouais, et puis le premier acte, hein, aussi, parce que...
Non, moi, ça
Vous
va.
Vous avez fait Mister et Mrs. Smith ensemble, je crois.
Non, c'était Brad Pitt. Mais je trouve que c'est pas... Doug Liman, le problème, c'est que quand il a beaucoup de moyens, je trouve qu'il s'enlise, en fait, dans ses trucs, notamment dans sa mise en scène qui devient très brouillonne. C'est un mec qui surdécoupe beaucoup, qui fait plein de retakes, ça devient souvent une bouillie. Moi, je me souviens de certaines scènes de combat dans Mister et Mrs. Smith qui étaient illisibles et absolument habitables.
Bourne Identity aussi.
John Tomorrow, c'était un peu fou. Enfin, c'était un peu brouillon aussi. Moi, j'ai super passionné par ce film.
Après, je trouve que c'est plutôt un bon directeur d'acteur. Après, il a des qualités, on n'est pas là pour faire un podcast.
Il n'a pas besoin de diriger Tom Cruise, il est parfait.
Juste peut-être, il faut aussi parce que s'il y a peut-être un retour, j'ai pas vu The Wall, donc je te pose la question, est-ce que c'est pas un retour aussi un peu à ses débuts, parce que justement il faisait des films concept au début. T'avais Go qui était trois histoires, enfin c'était un sous Pulp Fiction entre guillemets, parce que c'était vendu comme ça par le studio, mais c'était plusieurs histoires entremêlées comme ça. T'as Swingers qui est un film de copains pur, mais qui pour le coup porte la marque de Jon Favreau.
En fait, le truc qui est assez différent par rapport à ce que Doug Liman il avait fait, c'est que, et moi c'est une des qualités que j'aime bien, je trouve qu'il arrive quand même malgré tout dans ses meilleurs moments à donner quelque chose d'un peu incarné à ses films. C'est-à-dire que par exemple, je trouve que quand ses personnages voyagent, c'est souvent des films itinérants chez Doug Liman, en tout cas quand il y a de l'argent, tu as l'impression d'être dans le pays. Doug Liman, c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé avant de devenir cinéaste, et je trouve que ça, il l'investit en fait dans son cinéma. Mais The Wall, c'est assez différent, encore une fois, comme tu te retrouves presque dans un huis clos à ciel ouvert. Et les personnages sont très rapidement réduits en fait à l'état d'archétype. En fait, moi, si je devais rapprocher The Wall d'une autre œuvre d'art, ce serait les pièces de théâtre de Samuel Beckett. Et c'est ce qui est le plus intéressant en fait, finalement, dans le film, c'est-à-dire que on se retrouve avec une situation de guerre qui s'apparente à un trip assez métaphysique sur qu'est-ce que c'est être un guerrier, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est d'être un être humain dans une situation de guerre. Et parce que très rapidement, je pense que je ne spoil pas grand-chose à ça, il va y avoir a priori un seul survivant, parce qu'au début, il y a donc deux soldats, deux GI américains. Et en fait, très rapidement, on va avoir qu'un seul survivant, qui est Isaac, joué par Aaron Taylor Johnson, et qui va se retrouver à discuter avec son bourreau. Et le bourreau va le questionner en fait en permanence sur le bien fondé de ses actes, sur pourquoi lui il agit comme ça avec eux, sur qui est le plus barbare des deux. Et c'est là où moi le film est assez intéressant, c'est-à-dire que pour finir ce que je disais tout à l'heure sur la mise en scène, il ne faut pas attendre de The Wall un bel exercice de mise en scène, c'est le strict minimum, et là il y a un manqué, c'est manifeste. C'est-à-dire que ça aurait pu être un truc vraiment, c'est super les histoires de snipers, parce que c'est un truc sur la vision, sur le décor, sur où tu te caches, sur qui te voit. Ça peut être aussi un truc de champ contre champ absolument passionnant. Là c'est pas le cas, c'est vraiment le strict minimum. C'est pas imbitable au niveau de la mise en scène, parce que je pense qu'il a dû aller à l'essentiel, et c'est là où c'est différent de ces blockbusters où justement on se retrouve dans une espèce de bouillie. Mais c'est pas génial. Par contre, au niveau du procédé et de la narration, de ce qu'il a raconté, c'est pas inintéressant en fait, The Wall, parce que il y a une radicalité là-dedans, y compris jusqu'à la fin, que je ne dévoilerai évidemment pas ici, qui rend le film assez abyssal. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnages qui sont dans une vacuité totale dans leur action et qui se retrouvent à tourner en circuit fermé. Et c'est pour ça que je parlais en fait de Samuel Beckett, parce que Samuel Beckett, c'est souvent des personnages qui font face à leur propre impuissance, qui sont bloqués physiquement dans Où les beaux jours, par exemple. On a cette dame qui est à moitié enterrée. Et je crois qu'il n'y a que sa tête en fait qui sort d'un tas de sable. Il y a un peu de ça, en fait, je pense, dans Vol. Je pense que Doug Liman y a pensé. C'est quelqu'un qui a assez cultivé et assez lettré, et ça c'est plutôt pas mal. Ça ne rend pas le film absolument démentiel d'intérêt. Je suis pas sûr qu'une sortie en salle s'impose, et je pense que d'ailleurs
c'est Amazon Studios en plus.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que je pense qu'on est un des rares pays en France où il va sortir. Ouais, et là,
ça
c'est
a peut-être été préacheté au scénario,
c'est Metro, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est Metro qui le sort en salle. Je pense qu'ils vont s'en mordre un peu les doigts.
Moi il y a un truc que je trouve étonnant quand je regardais la bande annonce du film, parce que encore une fois j'ai pas vu le film, mais ça m'a fait penser à une scène, une très grosse scène des mineurs en fait, qui est la scène de Sniper.
Mais ça n'a pas du tout la même puissance, quoi.
Voilà, parce que dans des mineurs c'est hyper immersif en fait.
C'est sur un registre finalement très différent. C'est-à-dire que là tu te retrouves avec deux personnages, encore une fois, qui sont dans un dialogue, dans une situation assez extrême, mais t'as pas du tout dans deux mineurs t'avais cette espèce de frénésie de la guerre qui était là.
Non, mais dans cette scène il y avait justement un espèce de truc de temps qui passe en fait, si tu veux, parce que c'était très très long et les mecs se fatiguaient, et justement il y avait un langage qui s'établissait entre les deux snipers, mais sans évidemment dialogue en fait. Et c'est ça aussi qui était hyper passionnant, parce que c'est quand même une scène de 20 minutes au milieu d'un film de 2 heures, très spécifique, quoi. C'est pour ça que ça me fait penser un peu à... Voilà.
Non, mais c'est ce qui rend aussi The Wall anecdotique, c'est-à-dire que c'est vrai que quand tu la compares... Moi, j'avais pas pensé à cette comparaison avec The Mineur, mais c'est vrai que quand tu compares à The Mineur, tu vois que ça reste un petit film. Hein. Ouais. Mais je pense... Ce que je veux dire juste sur la sortie en salle, c'est que je pense que c'était un bon film pour la télé, en fait. Dans ce registre-là, du streaming, etc. Une sortie en salle, je suis pas sûr et certain que ça s'imposait, quoi.
Écoute, tu me poses John Cena, là, il faut le caser.
Alors,
quand même,
ça, c'est l'autre truc aussi, il faut le dire quand même un petit peu rapidement, c'est que John Cena, il n'a pas un énorme rôle, puisque c'est le deuxième GI qui se fait dessouder assez rapidement.
Et que tu spoiles comme un cochon.
Non, parce que tu le sais, en fait, ça arrive dans les 10 premières minutes du film.
Ah oui, d'accord.
Il
fait 12 minutes.
Oui, il est en scope, 2:35.
Et puis, je n'ai pas tout dit, mais
c'est lui le sniper d'en face.
Tu verras. Mais. Moi, je me souviens que dans le film de Judd Apatow, déjà, il m'avait beaucoup étonné. Il avait montré une vraie. Et là, ça se confirme. Je trouve
Non, mais c'est vrai. Dans The Marine, il était formidable.
Alors, ça, moi, j'ai.
non,
je rigole. Mais écoute, là, vraiment, il dévoile. Alors, encore une fois, je pense que Doug Liman, c'est pas un mauvais directeur de comédien. Mais il est vraiment bien. Il est vraiment excellent. Et ça fait partie du capital sympathie du film, on va dire, quoi. C'est-à-dire qu'une fois de plus, tu te dis, John Cena, pourquoi pas. Ce serait bien qu'on lui donne un petit peu de plus de mou et qu'il puisse faire quelque chose d'intéressant. Voilà.
Bon. Ouais, mais. Ok, écoute. Bon, et ça vaut le coup d'œil au cinéma, ou on attend la sortie vidéo sur Amazon ?
À vous de voir. Si le sujet vous interpelle, si ce que je vous ai dit vous intéresse, allez-y. Moi, j'aurais tendance à dire que non, plutôt, parce que, encore une fois, c'est pas.
Il y a d'autres choses à voir.
Cinématographiquement, au niveau du langage cinématographique, il n'y a pas énormément de trucs à en tirer, quoi. Après, ce qui est intéressant du cinéma, c'est que ça t'immerge toujours un peu plus. Donc c'est aussi une expérience censée être viscérale, mais je pense qu'elle est un peu plus intellectuelle que viscérale quand même dans The Wall.
Bon, d'accord. Ok, écoute, on passe à la suite, et la suite arrive en musique. C'est Kawaii. La musique Rose Bonbon, Angel of Love de Perfect Blue.
T'aurais pu mettre autre chose, hein. Il y a des morceaux de musique dans Perfect Blue qui sont autrement. Ça, c'est une parodie en plus, hein.
Ouais, mais c'est intéressant, parce que on va y venir, mais c'est quand même un film qui aurait pu être fait que au Japon, en fait.
Exactement.
Pourtant, il s'inscrit dans un comment dire. Alors, c'est un film d'animation, évidemment, pour ceux qui connaissent pas, hein, mais je pense que nos auditeurs connaissent. Et on en parle parce que ça ressort chez Quasi Vidéo.
Oui, et de belle manière.
Voilà. Et du coup, en fait, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans un espèce de genre, un film comme Perfect Blue. Déjà, c'est la naissance de Satoshi Kon, hein, en tant qu'auteur.
Oui, c'est
pour
son
nous, on
premier
l'a
film.
Avec,
voilà.
son premier film. Oui, il avait fait Memories.
Oui, il avait
tout à fait. Mais c'est vrai que c'était pas sorti en France. Nous, on l'a découvert avec Perfect Blue. Hein,
son sketch
sous l'ombre de.
Voilà, son
de
sketch dans Memories est juste le plus beau des quatre, hein, je pense. Son sketch à lui. Moi, c'est mon préféré, en tout cas, dans Memories. Mais sur Perfect Blue, moi je l'ai découvert au cinéma à l'époque puisqu'il
ouais,
était
moi,
passé.
Moi aussi, ouais.
C'était pas au dans les halles là. À
je,
la,
sais, ouais,
à
je crois qu'il est. Mais il y avait la... plusieurs salles non. Il y avait pas.
Moi je l'ai vu, je pense en avant-première à l'époque. Ça remonte vraiment.
Écoute,
remonte
c'était quand loin. Même une sortie. C'était quand même une sortie pas d'envergure, mais c'était quand même une sortie correcte. Hein, pas une sortie bazardée dans mon souvenir. Il y avait de l'affichage, il y avait tout ça. Voilà. Et voilà, le truc c'est que. Pour moi, en tout cas, c'est la fois où j'ai découvert Satoshi Kon. Et à la base, quand tu te lances dans le film, tu pourrais croire que ça, c'est une relecture sous comment dire, version d'animation en fait de Hitchcock et de Palma.
Ouais.
Et Dario Argento aussi. Hein.
Et Dario Argento, évidemment. Ce qui, au final, le film n'est plus du tout
oui,
ça.
Oui, la musique
moment,
qu'on a entendue n'est pas représentative du ton du film. Hein. Mais je pense qu'il faut pitcher le film, Julien, peut-être, pour résumer rapidement.
C'est l'histoire, en fait, d'une idole.
Ouais.
Donc, une star de la musique.
Une idole.
Pop, une idole.
Une pop star, quoi.
Voilà. Une pop star, voilà. Décide de quitter le girls band où elle est. Donc, c'est un girls band avec trois filles pour se lancer, pour faire avancer sa carrière, hein, basiquement, se lancer
et
dans une carrière d'actrice, etc. Et en fait, parallèlement à ce cheminement-là, elle va être harcelée par un. Alors, t'imagines, par un otaku. Qui va transformer sa vie en enfer à mesure que sa carrière elle-même sombre dans l'enfer et qu'elle-même commence à se fissurer, à fissurer sa psyché. En fait, c'est compliqué à résumer.
Non, mais je pense que t'as bien résumé.
Une fois que tu l'as vu, parce que c'est un film... on avait déjà beaucoup parlé en fait de Satoshi Kon
dans un podcast
de Capture avec notre ami Thomas Maximovic de Coyote qu'on salue. Mais et on avait dit tout le bien qu'on pense de Satoshi Kon. Mais ce qui est intéressant de Perfect Blue, c'est qu'à la base, c'est un petit budget.
C'était même un OAV.
C'est un OAV qui est sorti finalement en salle parce qu'il était de très grande qualité.
De très belle qualité, ouais.
Et qui a aussi, comme le disait Stéphane, une belle sortie en France à une époque où c'était pas évident, en fait.
Ah ouais, ouais, tu m'étonnes, c'est 99, non quelque chose comme ça.
C'est sorti en 99
en France.
Le film date
de 97.
Mais le film est sorti en 99 en France et c'était... après, parce que faut quand même rappeler, parce qu'on t'as le film qui sort avec comment elle s'appelle, Scarlett Johansson, de Ghost in the Shell, mais il faut rappeler que quand Ghost in the Shell est sorti en France, pareil, alors déjà 2 ans après le Japon, un peu partout dans le monde en 97, ça a été un bide, hein, c'est pas des films qui marchent en fait. Akira en 91, c'est pareil, c'était un peu.
Voilà.
Alors que Perfect Blue, ça a fonctionné.
Et Perfect Blue, ça a fonctionné tout à fait, quoi. Après, c'est peut-être. On peut dire justement parce qu'il appartient au genre dont on a parlé en fait à ce type de film en fait parce que c'est une espèce de en tout cas c'est une porte d'entrée c'est peut-être plus abordable à la base si tu veux quand tu rentres dans le truc quoi mais moi ce que je trouve très
j'avais
intéressant
j'avais vu Jinro la même année d'ailleurs ça a
c'est
été
vrai, c'est
c'était,
vrai.
Pareil, c'était cette ambiance
c'est pareil, Jinro ça avait pas marché du tout non plus
ouais.
sorti en
c'était
France.
Très austère aussi
ouais, voilà.
très
austère, et puis c'est encore un autre truc ouais mais
alors Perfect Blue hein, c'est très payant en fait
voilà. et le truc en fait c'est que il y a pour moi c'est un film qui n'aurait pu être fait qu'au Japon, justement. C'est-à-dire que, en fait, l'idée de ce que ça dit, en fait, sur la société japonaise, c'est aussi ça qui, pour moi, a fait émerger Satoshi Kon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je regardais le film, je me disais, OK, donc ça traite du rapport des idoles, ça traite du rapport à l'image, ça traite du rapport entre la réalité et la fiction,
ça traite du
fantasme, tu vois.
Et puis ça traite de la société japonaise,
exactement,
comment les gens
ça.
Pensent là-bas, parce que là, pour le coup, c'est très, très...
Et c'est quelque chose qui ressort totalement. Et le truc, en fait, c'est que, bon... On le sait aujourd'hui que c'est un film qui a fait date parce qu'on a vu la carrière de Satoshi Kon derrière. Mais déjà, tous les films de Satoshi Kon ne sont pas sortis en salle. On a eu Paprika quelques années après. Mais par exemple, Tokyo Godfathers ou
Millennium Actress.
Ou Millennium Actress, ça n'est pas sorti en salle.
C'est bien dommage.
Voilà. Et Paprika qui est son dernier film. Quoi.
Oui, parce qu'il est décédé après,
voilà.
Très prématurément, parce qu'il était jeune. Hein.
Ouais, ouais. Tout à fait, il avait 46 ans, je crois. Voilà. Et on sait que ça a fait un film qui a fait école aussi. Alors, au-delà même de la carrière de comment il s'appelle, de Satoshi Kon, aussi parce qu'il a été... cité par d'autres cinéastes, enfin voire même pompé, hein, je pense qu'on peut le dire clairement, comme Darren Aronofsky en fait sur Perfect Blue,
mais ce qui est un peu bizarre, en fait, disons qu'à l'époque Darren Aronofsky il était en négociation pour avoir les droits de Perfect Blue, il avait déjà rencontré Satoshi Kon, c'est lui d'ailleurs, c'est Darren Aronofsky qui signe la préface du très beau artbook qui est sorti chez Dark Horse, je crois, qui récupère, parce qu'il faut savoir que Satoshi Kon était aussi un artiste peintre hein, et un mangaka accompli. Donc il a, de toute façon, enfin c'est un grand fan, il s'en cache pas, mais effectivement il a repompé ça, mais il a repompé. Enfin, disons qu'il reprend des plans, ça c'est le truc le plus célèbre, le plus fameux. Il reprend notamment les plans dans la baignoire.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est surtout au niveau de la. Je pense que ce qui l'a marqué à quelqu'un comme Darren Aronofsky, c'est le fonctionnement narratif en fait de Perfect Blue. Je pense que ce qu'il faut rappeler, moi je me souviens que le choc. Si vous avez jamais vu Perfect Blue, attendez-vous à ce choc-là.
Ouais, puis surtout. Savez,
peut-être que je vais vous spoiler.
Non, mais attendez-vous à ce choc et surtout revoyez-le avec le Blu-ray parce que alors déjà il existait un Blu-ray mais qui n'était pas édité en France. Il y avait un Blu-ray en Angleterre ou ailleurs, mais il n'y avait pas de Blu-ray en France et déjà de le voir dans cette qualité-là, nous on l'a projeté au Max Linder pour la nuit Satoshi Kon qui était l'année dernière, qui est, entre parenthèses, a été un succès immédiat, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis 3 semaines avant de les placer, c'est parti en une semaine, parce que ce réalisateur a une aura et un
bien sûr,
est
mais,
aimé
mais,
par le public français.
Unique. Hein.
On avait découvert Tokyo Godfathers au Forum des Images. Il avait fallu, aller chercher les places 3 semaines avant pour être sûr de pouvoir voir le film. Quoi.
Et d'ailleurs, c'est un des derniers films, je crois, d'anime japonaise fait encore avec cellulo. C'est-à-dire que c'était pas sur ordinateur et tout.
C'est très
beau. Cellulo, peint, etc. Ce qui est rare dans des films de cette teneur-là, en fait, au niveau de la production. Mm-hmm. Ça, très vite, ils ont basculé sur l'ordinateur. Mais moi, je me souviens que la grande... Et ce qui me traumatise encore dans Perfect Blue, c'est le fonctionnement narratif. C'est-à-dire qu'il y a deux choses chez Satoshi Kon, c'est que c'est quelqu'un qui te fait des films insécables. Ça me fait un peu penser à ces puzzles en bois, en 3 dimensions. C'est-à-dire que c'est des pièces très complexes. Tu comprends pas comment elles pourraient rentrer les unes dans les autres et former un tout cohérent. Et en même temps, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas retirer une pièce sans que les autres s'effondrent. Et en même temps, tu ne te lasses pas d'explorer, en fait, la complexité de cet objet-là, par quelques facettes que tu le prennes. Et dans Perfect Blue, il y a une quantité, des strates et des strates thématiques qui sont absolument passionnantes, hein, que ce soit sur ce que ça dit des no-life et des otaku, du métier d'actrice, du rapport d'une comédienne ou d'une idole à son propre corps et au regard du coup des autres et du public qu'on a sur elle.
C'est pour ça que c'est absurde qu'un Aronofsky puisse penser faire un remake aux États-Unis par exemple
d'un tel
film, parce que tu enlèves enfin.
Je pense qu'il y a quand même un côté universel, et après il faut transposer ça. Lui, il se trouve qu'il traitait de la problématique, par exemple, des otaku et des idoles qui sont des trucs très japonais, mais je pense que tu peux trouver les équivalents peu ou prou.
C'est plus compliqué parce que c'est des films qui auraient existé déjà. En fait, c'est ça le truc aussi avec je pensais que t'as des films comme Le Fan ou enfin, je parle pas du Tony Scott, mais le film des années 80. T'avais des trucs comme ça en fait. Donc c'est quoi qu'il arrive, en fait, je pense que en plus un cinéaste personnellement que je trouve aussi limité qu'Aronofsky serait retombé dans du sous De Palma et dans du sous Hitchcock quoi, en fait.
Je pense que pardon, Steph.
Non, vas-y.
Mais je pense que la vraie problématique, en fait, c'est de te dire, c'est l'autre point, en fait, que je voulais développer sur Perfect Blue, c'est de te dire, est-ce que ça a un intérêt de refaire ça en live? C'est-à-dire que l'autre truc qui est génial Satoshi Kon, pardon.
On va pas y arriver.
Et c'est quand aussi, c'est des films qui sont construits sous la. Si je devais les résumer à un schéma, géométrique, ce serait une spirale, en fait. C'est des films qui ont une structure rythmique et visuelle circulaire. Et qui vont de plus en plus vers le centre pour t'emmener vers un truc en général complètement abyssal et tourbillonnant où tu te rends compte que tout te retombe sur la tête. Et je pense que ça, c'est le fruit d'un travail extrêmement précis, à la fois visuel et à la fois rythmique. Et pour moi, il me semble que c'est extrêmement difficile de refaire ça dans le cinéma. Là, il faut avoir une maîtrise totale de son visuel, des mouvements des personnages, etc. C'était le cas dans Minimum Actress, par exemple, avec les courses incessantes du personnage principal.
Et c'est surtout qu'en fait, en gros, c'est pas que dans une logique de cinéma d'animation, c'est vraiment dans une logique de la mise en scène de Satoshi Kon aussi. C'est-à-dire qu'en gros, des plans aussi emblématiques que celui dont on a parlé où elle crie sous la baignoire, en fait, sous l'eau dans la baignoire, c'est un truc qui peut pas refonctionner correctement en fait au cinéma, parce que d'un seul coup en fait j'ai pas envie de dire la magie entre guillemets du trait, tu vois, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que tu recrées une situation du réel en la fantasmant totalement en fait sur le papier, tu vois, en le dessinant quoi, et revenir à cette situation originale, ça perd pour moi de son sens, en fait. Mmh. Et il y a plein de moments comme ça. Il y a ce moment où elle reçoit un coup de fil et d'un seul coup, elle se rend compte qu'elle est persécutée. Et t'as ce mouvement de caméra arrière dans la ville qui, d'un seul coup, la positionne au milieu du reste de la ville. Un plan comme ça au cinéma, c'est ridicule. Tu vois, et dans le film, c'est magnifique parce que ça dit tellement de choses en termes thématiques et en termes aussi de suspense que voilà, c'est là où c'est pour ça que moi, quand j'ai découvert ce film à l'époque, c'est ce que je m'étais dit. Je me suis dit, ah oui, il y a un cinéaste là derrière qui est incroyable en fait, qui arrive à se renouveler. Surtout quand tu tapes le film au début, où tu crois vraiment que tu es en train de te taper un De Palma slash Argento, comme tu dis, tu vois, et que tu sais qu'au bout d'un moment,
tu quittes totalement ça
pour. Parce que le film, tout simplement, perd le pied avec la réalité pour revenir, tu vois, dans le fantasme et tout ça, et jouer avec le spectateur là-dessus. Et c'est même celui qui est le plus timide. Hein. Enfin, bon, évidemment, il n'a pas fait ça dans Tokyo Godfathers, mais par rapport à...
Un film à part, de
voilà,
toute façon.
Mais Paprika, ou Millennium Actress, ça va beaucoup plus loin encore que ça, dans la façon d'enchevêtrer les comment dire, les passages d'une scène à l'autre, en fait, j'ai plus le terme, mais les transitions, voilà. Mmh. Donc ouais, c'est assez impressionnant, en fait, de jamais vraiment perdre, en tout cas, l'intérêt du spectateur vis-à-vis de ça.
Mais pour rebondir sur ce que tu disais sur l'animation, qui est tout à fait vrai, c'est là aussi où je pense que c'est vraiment un film d'animation. Et c'était un réalisateur de dessin animé, Satoshi Kon. C'est pas quelqu'un comme Brad Bird, à mon avis, je le vois pas. C'est facile de dire ça maintenant qu'il nous a quittés, malheureusement. Mais je le vois pas passer du live à l'animation, par exemple. C'est que c'est aussi quelqu'un qui a profondément travaillé sur... notre perception de la réalité, la représentation de la réalité fantasmée et rêvée, et sur la confusion en fait de tous ces registres-là de ce qu'on peut percevoir. Et il me semble que avec l'animation, il arrivait à faire quelque chose. Il sublimait en fait tout ça. Ça correspondait parfaitement à ça. C'est-à-dire que son héroïne dans Perfect Blue, par exemple. C'est à la fois un personnage d'animé, on va dire, un petit peu lambda, et tout à coup, elle est investie d'une humanité et incarnée de façon extrêmement forte, au détour d'un petit geste, d'une lumière, d'une ombre sur le visage. Et ça, c'est quelque chose qui va pousser, à mon sens, hein, au maximum avec Millennium Actress, mais qui était déjà là dans Perfect Blue. Et je pense qu'aussi, le truc, peut-être pour les gens qui n'ont jamais vu le film, alors attention, je vais un tout petit peu spoiler, mais voilà. Mais en même temps, je vais donner envie. Je pense que les dernières personnes qui n'ont pas vu Perfect Blue, ça peut aussi leur donner envie.
Vous avez aucune excuse. Aucune excuse.
C'est que là où on se disait effectivement, je pense tous qu'il y avait un énorme cinéaste derrière Perfect Blue, c'est que comme le disait Stéphane, tu débutes avec cette espèce de thriller à la De Palma, etc., et que tu te rends compte au bout d'un moment que le fonctionnement narratif, c'est-à-dire que c'est pas une fin de scénario, c'est le fonctionnement narratif du film. Qui te permet de sublimer totalement ça. C'est-à-dire que, encore une fois, sans rentrer trop dans les détails, tu te rends compte que le point de vue que tu avais adopté depuis le début du film n'est pas celui que tu croyais avoir adopté. Ça semble très nébuleux, je pense, quand je le dis comme ça, mais quand
totalement
on voit le
film, nébuleux.
Et je me rappelle que le moment, moi, en salle, c'est pour moi un souvenir très très fort, le moment où j'ai réalisé que le mec m'avait mené comme ça par le bout du nez et qui me faisait comprendre ça. Pour moi, ça a été un choc énorme.
Je crois que tu n'as plus le pantalon que tu avais.
J'en ai pas vu.
Il portait pas de pantalon. Comme
ça, ça, il avait baissé son.
Mais ce qui est génial, c'est que ça fait sens par rapport au propos. Je reviens au truc du puzzle là, l'allégorie un peu bidon là, que je sortais tout à l'heure. Mais ça fait sens, c'est-à-dire que c'est pas simplement pour nous étonner.
Ça tombe bien que tu parles du puzzle parce que c'est l'idée. Enfin, c'est une des affiches du film où on voit le personnage en puzzle.
Signé Satoshi Kon.
Et tout à fait. Et c'est cette image qu'ils ont choisi pour faire le coffret Blu-ray Collector, donc combo Blu-ray plus DVD, qui est une édition limitée avec ce puzzle. Et quand on d'ailleurs c'est imprimé sur un vinyle. Et quand on retire le coffret, on a la fille en dessous nue. Et c'est sublime. Le coffret est sublime. Alors je vais faire un peu de pub direct, mais ça vaut 38€ chez nos amis qui livrent jusqu'à chez vous. Et ça vaut le coup.
En une heure.
Alors, une heure. Ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Sinon, la version Blu-ray standard, entre guillemets, la version Blu-ray normale, avec aussi une très belle illustration, parce que c'est l'affiche toute bleue qui est
également de Satoshi
Kon. Qui est également de lui, elle vaut 16€. Voilà.
Alors, le truc qu'il faut dire surtout, c'est qu'il y a des bonus vidéo sur le disque qui sont, moi, à mon sens, un petit peu anecdotiques. Il y a une interview de Satoshi Kon, pour moi, c'était le truc le plus intéressant. Franchement, elle n'est pas très intéressante. C'est émouvant de le revoir parler, hein, de toujours.
Bien sûr.
C'est difficile de faire des bonus actuels maintenant qu'il est mort.
C'est compliqué. Mais il y a un très beau livret qui est très joli.
Alors par contre, ce qui est super important, c'est qu'il y a le storyboard complet de Satoshi Kon. Et encore une fois, c'est un peu comme les storyboards en fait
de Miyazaki. Je vais la commander direct. Allez hop, c'est parti.
C'est-à-dire que c'est...
Mec, il fait ses achats en
live. Pour te l'offrir, je l'ai déjà, moi.
C'est un dessinateur exceptionnel. Donc déjà, c'est un très beau document. Mais en plus, je trouve que c'est comme Otomo, encore une fois, pour même Miyazaki, pour bien comprendre le mode opératoire de ces artistes-là, pour essayer de mieux comprendre leur cinéma. Le storyboard est un outil, une clé absolument indispensable. Voilà. Et à ma connaissance, en France, le storyboard de Paprika était disponible dans l'édition collector en DVD. Je crois que celui de Godfather, enfin je suis sûr même que celui de Godfather, c'était aussi le cas. Malheureusement, Millennium Actress, non, mais il y a un artbook très joli, collector, très cher au Japon. Mais par contre, voilà, sur Perfect Blue, je ne crois pas que c'était encore disponible et c'est magnifique.
Eh bien, bravo. Je suis d'accord. J'ajoute qu'on parlait de Jinro, qui est sorti en 99. Il y a un autre film typiquement japonais, enfin dans l'animation, qui parle du monde du Japon et qui parle de la société japonaise. C'est Mes voisins et les Yamada, qui était sorti de Takahata.
À
peu près à la même époque. Donc c'était dans l'air du temps toute cette introspection, on va dire sur la société, enfin, l'esprit japonais.
Satoshi Kon, il n'a fait que ça. Quand tu regardes Millennium Actress, c'est un film qui parle du cinéma japonais pendant sur 100 ans. Tokyo Godfather, c'est le rapport à Noël, enfin bref, c'est tout un truc comme ça, donc ça parle vraiment, ça traite de la société japonaise.
Les SDF japonais, c'est un truc un peu tabou là-bas.
Voilà, donc t'as un paquet de enfin c'est vraiment, c'était
mais
vraiment
ça reste quand même des films universels.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois que c'est, ça vient de là, quoi, en fait, et c'est... Moi, je trouve que c'est une des qualités, ce qui fait le prix de son cinéma aussi, quoi.
D'accord, voilà. Bah écoute, en tout cas, achetez Perfect Blue, vous ne le regretterez pas. Et nous allons parler, une fois n'est pas coutume, de jeux vidéo avec Stéphane.
Il n'y a que moi qui joue.
Un jeu, alors... mais non, je joue aussi.
Il
n'y
a que toi qui a le temps de jouer.
Je joue aussi.
Il n'y a que moi qui prends le temps de jouer.
Et alors, un jeu qui ne sort pas sur la Switch, dont tu nous as vanté les mérites la dernière fois, mais qui sort quand même sur Xbox One, sur PS4 et sur PC. Et c'est Injustice 2.
Voilà, Injustice 2, qui est la suite donc de Injustice.
C'est sorti d'ailleurs.
C'est sorti, ouais, depuis le 18 mai, je crois. C'est un jeu de baston en 2D, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et dans l'univers de DC. En gros, si vous voulez voir.
Batman qui se tape sur Superman, qui ne se tape pas
Superman, oui. Donc on n'est pas chez Zack Snyder là. Donc voilà. Non mais le c'est vrai que voilà, c'est
ça vaut encore le coup, les jeux de baston, les jeux de fight en 2D.
Oui, c'est pourquoi t'as un truc
non mais alors, quel intérêt, il y en a eu tellement, si tu veux, et des bons, hein, il y a eu tout
écoute, c'est un truc différent. Et alors chez
il y a eu Injustice déjà de base.
Ouais, alors ça c'était pas, enfin moi j'avais pas trop aimé. Alors après, alors voilà, bon, c'est je vais resituer un peu en fait le studio qui a fait ce jeu, que moi personnellement j'aime beaucoup, je trouve assez bon, quoi. Assez généreux, assez riche, et surtout qui traite la mythologie super-héroïque de DC, je trouve assez sérieusement. Ce studio, c'est NetherRealm Studios, en fait, qui ont relancé qui ont fait le reboot en 2011 de Mortal Kombat, qui était plutôt, ma foi, assez réussi, qui était assez rigolo, qui prenait en compte l'aspect,
ultra gore, notamment.
Gore, et puis beauf, en fait, de Mortal Kombat, et qui en jouait, en fait. Donc, il y avait un vrai
mais
décalage.
Mais t'avais déjà des personnages de DC, non, c'était pas dans ce...
Non, il y en avait un autre avant, mais qui était justement un jeu un peu pourri, qui était Mortal Kombat versus DC, tu parles de ça, mais ça, c'était vraiment pas terrible,
d'accord,
quoi.
Okay.
Et en fait, leur truc à eux, c'est de fonctionner avec un mode histoire, en fait. Et le mode histoire, c'est vraiment, littéralement, des cinématiques d'histoire, en fait, entre les personnages. et tu joues ensuite les bastons qui te sont proposés, quoi. C'est-à-dire les combats mano à mano contre.
Mais ça, le mode d'histoire vaut le coup, parce que c'est pas très souvent le cas.
Non, mais sur Mortal Kombat, ce qui était fun en fait, c'est qu'ils faisaient plus ou moins un remake des deux premiers films. Mm. Ils avaient une conscience, il y avait pas un aspect parodique, mais il y avait un aspect clairement, décalé sur le truc. Et en permanence, c'est-à-dire que c'était hyper généreux, t'avais, à côté du mode solo, bon, ok, enfin, honnêtement, l'histoire, elle était un peu con-con sur les bords, hein, mais comme c'est Mortal Kombat, tu demandais pas vraiment plus que ça, t'avais, par exemple, ce qu'ils appelaient la tour des défis, et en fait, c'était, t'avais 500 défis à faire, et à chaque fois, ça allait d'un combat de base à des trucs complètement absurdes, comme contextualiser. Scorpion qui essaye d'offrir un ours en peluche à Sub-Zero qui en veut pas et donc ils se battent. Donc c'était vraiment, donc il y avait un aspect comme ça décalé, fun, qui en même temps était respectueux à la base de la licence, mais qui avait conscience
que c'était, les personnages,
voilà, qui avait conscience que c'était un peu con sur les bords. Mmh. Et le truc c'est que c'était plutôt réussi. 2 ans après, ils ont sorti justement Injustice. Sur le même mode et malheureusement avec le même type d'histoire, et du coup ça fonctionnait pas très bien, c'était pas très intéressant, les enjeux étaient plus ou moins les mêmes, et surtout, enfin, Mortal Kombat c'est Mortal Kombat, mais DC tu peux faire beaucoup mieux que ça, quoi. Donc c'était un peu déceptif, quoi. Et ils enchaînent comme ça tous les 2 ans, ils enchaînent avec un Mortal Kombat et un jeu de combat DC. Et donc en 2015, ils ont fait le Mortal Kombat X, qui pour le coup en fait a pris une tournure un peu différente. C'est-à-dire, ça reste Mortal Kombat, ça reste la suite du Mortal Kombat dont je vous ai parlé, du reboot, mais avec une espèce d'approche sérieuse du sujet et qui fonctionne, qui est complètement incarnée. D'un seul coup, tu te retrouves dans le mode solo. Encore une fois, c'est cinématique pure sur lequel t'as pas vraiment de prise, puis jeu de combat, tu te retrouves en fait à avoir des conversations, alors je mets les guillemets, vraiment je mets des limites, hein, des grosses limites, à la Kurosawa entre Sub-Zero et Scorpion. On est complètement dans une écriture, voilà, c'est pas ridicule. T'as même une scène, t'as même 2-3 scènes gore qui sont pas des scènes de baston, qui sont assez étonnante et même à la Game of Thrones par certains trucs, en certaines scènes de Game of Thrones aujourd'hui, comme ils font certaines scènes. Et donc c'était assez surprenant en fait de voir qu'ils avaient énormément perfectionné l'écriture et même les cinématiques en soi, pour essayer de redonner une certaine noblesse à Mortal Kombat, en se disant on peut traiter un sujet qui est aussi une mythologie aussi bête et basique que celle de cette époque-là, et on peut en faire quelque chose de sérieux sans passer par le prisme dark, sombre que tu sais les web-séries avaient essayé de faire au début des années 2010.
Un peu réaliste, un peu à la
qui était pas terrible, quoi.
Non, c'était cheap.
Et ce qui est intéressant, je fais cette historique là parce que c'est intéressant de voir que tout ce travail en fait, ça porte ses fruits dans Injustice 2 en fait. C'est-à-dire que ils partent pareil, c'est la suite directe de Injustice, donc c'est Superman qui a foutu le boxon à la fin du premier, donc je vous spoil le premier, quoi, et qui du coup est enfermé par Batman, et 5 ans après, Batman essaye de recréer, de remettre sur pied la ville, Gotham et Metropolis, et en fait, il y a une attaque de Brainiac, bon ça c'est le truc de base, et il va devoir se réallier avec Superman alors qu'il veut pas le faire, et d'un seul coup, il y a une espèce de clan entre les super-héros, t'as les super-héros qui sont du côté de Superman, et t'as les super-héros qui sont du côté de Batman, et fight, quoi, on y va, quoi. Et alors le truc qui est, moi, je trouve assez intéressant, c'est que les cinématiques sont beaucoup plus chiadées. Bon, on évite
elles sont
pas...
belles, hein. Vous pouvez voir les bandes annonces sur le net.
On n'évite pas le tiens, il a utilisé un portail, il rentre à ce moment-là inopinément et hop, on se bastonne, tu vois, qui est déjà des fois un peu. Je pense que c'est quand même très compliqué à écrire ce genre de truc
clair,
pour rendre ça vraiment cohérent parce que t'es vraiment obligé de tourner autour des bastons. Mais ce que j'aime beaucoup, en tout cas, ce qui était déjà plus ou moins un peu dans Injustice, mais que je trouve qu'ils ont vraiment perfectionné aussi dans le système de combat, parce que je vais un peu parler de ça, c'est qu'il y a une vraie façon d'aborder chaque super-héros et finalement de le rendre presque réaliste, entre guillemets, vis-à-vis des combats. C'est-à-dire que, disons que si t'as un combat, tout le monde s'est posé la question à l'époque du Zack Snyder, mais comment est-ce que Batman va se battre contre Superman ? Apparemment, c'est des gens qui avaient jamais... parler de la kryptonite. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est ce qui est étonnant, mais voilà, bah ça c'est des trucs qui sont intégrés en fait dans dans les systèmes de combat mm-hmm. Pour comment dire rendre ça plus,
ouais,
plus
sinon c'est mort
plus,
hein, avec
plus crédible et cohérent. Et en même temps, ça les empêche absolument pas d'avoir des trucs référentiels qui fonctionnent super bien quoi. Par exemple, enfin moi il y a une représentation de Flash. C'est-à-dire, il y a dans le système de combat, il y a un truc, c'est quand tu, bon, truc basique, hein, quand tu fais monter ta jauge complet, t'as ce qu'ils appellent un super move, tu le lances et en fait, tu vas exploser la gueule de ton adversaire avec une super cinématique, voilà, c'est très classique. Mmh. Mais c'est super fun la façon dont c'est amené. Par exemple, Batman, c'est un truc qu'il fait où il te met un coup de, comment dire, il t'attrape avec un filin et en fait, c'est la Batwing qui te ramène dans le ciel et qui te fait, voilà. Et t'as, comment dire, le plan iconique du Batman de Tim Burton où la Batwing passe devant le voilà. Donc c'est une petite référence sympa, voilà. Mais ça, c'est référentiel, c'est sympa.
Tu parlais de Flash?
Mais Flash, par exemple, en fait, t'as un super move, en fait, où d'un seul coup, il va attraper son ennemi et, en fait, le faire traverser le temps et l'espace. Et dans une pure représentation... Alors bon, je dis j'ai jamais vu Flash comme ça, mais j'ai pas vu la série, la nouvelle série là, qui passe côté, voilà, qui apparemment est assez barrée, quoi. Mais c'est super intéressant de le voir, donc d'un seul coup, en fait, traverser le temps et l'espace et partir en Égypte pour lui exposer la gueule de son adversaire sur le Sphinx, revenir par l'ère préhistorique et lui exploser le reste de la gueule sur un dinosaure et en fait revenir à la zone de combat pour éclater son adversaire sur comment expliquer ça, sur la représentation dimensionnelle de son adversaire, c'est-à-dire il revient dans le combat en termes de temps et d'espace. D'accord. Du coup il éclate son adversaire sur lui-même, ouais. Voilà, donc c'est complètement barge et en même temps ça fonctionne super bien, c'est super fun. Et t'as plein de trucs comme ça. Encore une fois, alors sur le travail des cinématiques, je voulais aussi rajouter un truc, c'est qu'il y a un travail de performance capture qui est assez bluffant je trouve, pour un jeu de ce type là parce que faut comprendre aussi que ce type de jeu, quand tu fais un moteur de jeu, tu fais un moteur de jeu pour le combat, quoi. Et en fait, bon,
les visages, tu t'en fous un peu, quoi.
Voilà. Et du coup, en fait, ils ont quand même extrêmement travaillé ça. Et du coup, bah, ça donne quand même une plus-value émotionnelle qui est quand même assez présente, quoi.
J'ai un problème avec la DA, enfin, dans ce que j'ai
non,
vu.
Non, mais c'est, oui. Ça, alors c'est après, un, ça, c'est un autre truc. Il faut accepter le Joker qui est un peu émo, parce qu'ils essayent de coller un peu à Suicide Squad. Il faut savoir qu'il y a des. On n'a pas vu Wonder Woman, le film, encore là où on enregistre, mais le film sort cette semaine. Il y a une opération en fait où tu peux récupérer des armes sur le net, je crois gratuitement, qui sont des armes
de la Wonder Woman du film,
voilà. Ouais. Donc du coup, il y a c'est DC, hein, ça reste Warner, c'est complètement connecté. Et le truc, c'est que t'as Bane qui apparaît, qui a plus ou moins le look de Bane chez
Nolan.
Non, chez Schumacher, mais un peu plus sobre quand même. Ouais. Ah oui, dans le précédent, ils avaient fait un Nightwing qui ressemblait à Robin dans le Schumacher. Hein. Ah, c'était complètement ça, quoi. Putain. En fait, ils mélangent un peu tous les trucs, quoi.
T'as l'air choqué.
Bah, je suis très étonné. Je pensais que c'était un film de
pestiféré, en fait. T'aimes pas les fesses moulées dans le latex.
Ouais, mais il y a des gosses qui ont grandi avec ça. Et mine de rien, en fait, je pense que
ça va. Les fesses moulées dans le latex, merci pour les gosses.
Ouais, mais j'étais en train de penser à ça au moment où tu parles. Excuse-moi. Voilà. Et du coup, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est un peu ce mélange des trucs. Moi, c'est vrai que le Joker, un peu émo, pourri, il ressemble pas vraiment à celui de Suicide Squad, mais il a un peu la même logique. Il est pas terrible. La Harley Quinn, par contre, elle fonctionne super bien. Moi, je trouve qu'ils ont fait. Tu vois, la Catwoman, moi, j'aime pas trop la Catwoman avec les designs, comment dire, avec les lunettes, en fait, en yeux de chat, quoi. Mais enfin, bon, après.
C'est le canon aujourd'hui.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais qui est d'ailleurs plus ou moins la Catwoman qu'ils utilisent dans
Arkham.
Arkham, voilà, c'est ça. Mais
et l'arc est là. Toutes ces références et de jeux vidéo, il y en a tellement en
les
fait.
Les Batman Arkham, non mais si.
Non, il y a un truc qui est intéressant, c'est que autant Marvel a réussi au cinéma en fait sa conversion cinématographique.
Son évolution.
Personnellement, moi je trouve que c'est raté, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont réussi auprès du public. Tu
vois, bien sûr.
Il y a un vrai suivi. Autant DC en fait des bien meilleurs jeux que ceux de Marvel en fait.
Mais DC a réussi à peu près.
Voilà. Ce qui n'est pas le cas au cinéma, quoi.
Mais là où Marvel ne réussit pas tout à fait encore, c'est-à-dire qu'à la télé ils ont quand même Ils ont quelques trucs et ils ont réussi à avoir des fans. En jeu vidéo, c'est la même chose. En animation,
c'est vrai qu'en jeu vidéo, Marvel, c'est pas top.
Parce que là, c'est en train de changer parce qu'ils sont en train de se réapproprier le truc. Il y a le Spider-Man qui va sortir sur PS4 avec Insomniac Games, qui a été annoncé l'année dernière à l'E3. Ça risque d'être quand même autre chose que ce qui a été fait ces dernières années.
Jusqu'à présent, c'est quand même pas la
joie. Non, mais ils sont en train de.
Tu vois, avec la VR, il manque un bon jeu Iron Man, quoi.
Non, mais ils sont en train de repenser ça. Non, mais c'est vrai, ça serait parfait. Je pense qu'ils sont en train de repenser tout ça et on va voir ce que ça donne. Moi, je suis plus excité par les jeux vidéo Marvel éventuellement que les films, quoi. Mais parce que je pense qu'il y a un vrai grand jeu Spider-Man à faire, comme ils ont fait, je trouve, avec Batman Arkham City, quoi. Mais le truc, c'est que, ouais, tu vois, Bane, il a ce look un peu, épuré, hein, du Schumacher, mais avec la voix, une voix à la Tom Hardy, tu vois.
D'accord.
Donc voilà, il y a tout un truc de mélange comme ça. C'est hyper référencé, c'est hyper fan. Et clairement, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est hyper généreux, c'est-à-dire que t'as le mode histoire, t'as le multi, t'as le solo, et puis t'as cette espèce de truc qui est très intéressant, moi, je trouve, qui est un espèce de c'est un peu comme la tour des défis dont je parlais dans Mortal Kombat, sauf que c'est en gros c'est Batman qui a un accès à tous les multiverses en fait de DC, quoi, et qui en fait tu fais des matchmaking, tu vois, entre les persos. C'est un perso qui pourrait pas se battre contre un autre perso dans le solo, en fait d'un seul coup tu les fais regrouper, et t'as des défis journaliers avec ça à regrouper, donc c'est hyper généreux en contenu. Et voilà, hyper. Enfin, moi, je trouve qu'ils ont affiné aussi les mécaniques de jeu. C'est plus abordable. C'est mieux. Enfin, les bastons sont plus fun, quoi. Donc voilà, personnellement, si vous aimez l'univers DC, si vous aimez les jeux de baston en 2D, ils ont vraiment, je trouve, réussi depuis Mortal Kombat X et celui-là, en fait, à affiner vraiment leur formule. Et je peux pas te dire que l'histoire est formidablement bien écrite, mais...
Alors j'avais une question là-dessus. Ouais. C'est forcément, t'es forcément dans la partie scénarisée, ou t'as du combat,
bien sûr. Non, mais c'est un jeu de combat. Hein. Donc on est là-dedans. T'as un solo pour ceux qui veulent suivre une histoire, tu vois, avec des enjeux. Et faire quelques choix très rapides, hein. Est-ce que tu vas te battre avec Blue Beetle ou avec Black Adam, enfin des trucs comme ça, c'est vraiment des petits trucs, et puis tu choisis, et je crois que t'as 3-4 fins différentes, il me semble, suivant les choix que t'as fait. Mais voilà, c'est assez rapide, hein. ça dure, franchement, je crois que les gens qui prennent les cinématiques pour les mettre sur internet, là, je pense que sur YouTube t'as des montages comme ça, c'est 2 heures, hein.
D'accord.
Donc en gros, ton solo, tu le fais en 5 heures, quoi. Tu vois, je veux dire, parce que si t'es un peu nul en jeu de baston comme moi, tu vois, tu
10
tu,
pour moi alors.
Voilà, tu vois, tu prends un peu de temps, quoi.
Et alors, il y a une autre question, c'est que sur la jaquette, parce que ça se vend encore en physique, hein, surtout pour les échanges dans les Score Games et autres endroits où tu peux revendre tes jeux. Il y a marqué comprend Darkseid. Alors, tu peux m'expliquer qui c'est Darkseid ou Darkseid?
C'est un des méchants de l'univers DC.
Alors pourquoi ils l'ont mis sur la jaquette?
Non, mais c'est parce que ça. Alors là je pense que tu fais référence à, comment dire, tu fais référence à des, tu sais, c'est si tu achètes le jeu en précommande, il te file un skin. Tu sais, en fait, c'est des jeux où t'as un roster assez énorme quand même. Un roster, c'est donc le casting en fait de combattants. Et en fait, pour, on va dire, je sais pas si c'est exactement le cas, hein, ce que tu me dis, mais tu vois, sur PS4, ils te filent Darkseid en préco. Sur, sur Xbox One, ça va être un autre perso.
D'accord. Okay.
Donc voilà, et en fait, en gros, si tu veux, toute l'idée, c'est, est-ce que tu vas acheter un perso, machin. Et en plus, la logique de NetherRealm Studios, c'est, surtout, ils l'ont fait sur Mortal Kombat, parce que je pense que ça s'y prête plus que chez DC. Puis il y a moins de persos, on va dire, c'est de ramener en fait des figures un peu différentes. Alors Darkseid, il fait partie de DC, hein. C'était une création, je crois, je dis pas de conneries, je me sens que c'est Jack Kirby. Mais le truc, c'est que par exemple dans Mortal Kombat, ils avaient ramené le Predator, ils avaient ramené Freddy Krueger. Alors c'est le Freddy Krueger des années 2000, hein, tu vois, celui qui est complètement débile parce qu'il a fait un seul film, tu vois. Mais
c'est celui que les jeunes connaissent.
Oui, mais c'est étonnant parce que t'as quand même 8 films, je sais pas combien de séries, 7 films, je sais pas combien de séries avec Robert Englund, et puis un seul film avec ce mec-là, c'est celui qu'ils choisissent parce que il faut capitaliser sur ça. Mais t'as le Predator, t'as Jason Voorhees, voilà, dans Mortal Kombat, donc c'est rigolo, mais ça c'est des trucs que tu payes en plus, quoi. Tu vois, voilà. Donc c'est du DLC, quoi. Et nul ne doute que, là, le jeu vient de sortir, mais nul ne doute qu'ils vont rajouter plein de persos en DLC pour Injustice 2. Mais il se trouve quand même que ça reste extrêmement généreux en contenu, Et pour ceux qui s'intéressent à l'univers d'ici, moi je trouve que c'est un bon palliatif à.
Bon.
À
film de merde.
Voilà. Batman, on n'a pas vu le Wonder Woman. Apparemment, il y a de très bonnes critiques.
Oh bah, ça a l'air bien, tu vois. La bande-annonce est alléchante. Moi, j'aime beaucoup.
Ouais.
Ça vaut une cinquantaine d'euros, entre 50 et 70 euros, ça dépend de la formule que vous achetez, si vous l'achetez en physique, si vous l'achetez en démat, en version complète avec des DLC supplémentaires, etc. Avec Darkseid dedans ou pas. Et puis voilà, une dernière question jeu vidéo avant de vous laisser, puisqu'on parlait de la Switch tout à l'heure, elle est totalement en rupture de stock. Ils vont réalimenter Nintendo un jour
Ils sortent Arms là au mois de juin, ils sortent Splatoon 2 au mois de juillet, donc forcément ouais, ils vont réalimenter parce qu'ils font des packs avec, tu vois. En tout cas, ils font des packs avec Splatoon.
Oui, j'ai vu qu'il y avait des packs et... qui enfin vont arriver.
Les victimes de son succès, je pense qu'ils ont été prudents vis-à-vis des scores de la Wii U, mais en même temps, voilà. Enfin, moi, ça fait maintenant 3-4 mois que je l'ai en main c'est vraiment une super console. Hein. Bon. C'est super bien pensé. Enfin, c'est encore une fois, c'est différent de ce que les autres font. Donc, oui, ça va.
Pas déçu, tu l'as pas remisé dans un coin, elle prend pas la poussière.
Bah, moi, je passe mon temps sur Zelda. Donc,
okay. Voilà. Très bien. Et qui existe aussi sur Wii U. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous avez une Wii U, de vous acheter le Zelda parce que c'est à peu près le même, hein, je pense.
Apparemment, il paraît que. Bah, j'y ai pas joué, mais il paraît que c'est quand même un portage pas très.
Ce qu'on m'avait expliqué, c'est que c'était d'abord prévu
même,
pour la
Wii U. Oui, c'est le même jeu. C'est le même jeu. Mais il y a des baisses de framerate. Ce qui est un peu le cas dans la version Switch, mais ce qui est pas très grave parce que c'est un jeu qui est magnifique, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a une DA incroyable. Bah non, c'est un vrai jeu. Hein. C'est pas un film du tout. Hein. Pour le coup, il y a pas de narration. Il y a plus de cinématiques dans Injustice 2 que dans Zelda, quoi. Mais le truc, c'est que t'es dans un monde ouvert, mais qui est complètement incroyable. Voilà. Mais là, tu vas pas mettre en
frais l'émission. Mais la version, ce qui est intéressant avec la version Wii U, c'est qu'a priori, de ce que j'ai entendu dire, elle avait été tirée à beaucoup moins d'exemplaires que les versions qui sont prévues, et évidemment en démat, mais aussi en physique.
Parce que c'est un système killer pour la Switch. Hein,
donc si vous achetez la version Wii U, elle risque de devenir collector assez vite parce qu'elle va se retrouver à être très rare rapidement. Donc voilà, moi je me la suis offert et je joue avec, je suis d'accord avec toi, c'est un jeu formidable. Nous arrivons au terme de cet épisode hebdomadaire qui fut mine de rien pas mal rempli, hein, les amis. Hein. Ouais.
Parce que tu lui mets une pièce et c'est réglé. Hein.
Et ça repart. Bon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un Capture Mag Hebdo, toujours avec vous. Et puis on vous dit bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin de matinée, bonne fin de week-end, quel que soit le moment ou l'endroit où vous écoutez Capture Mag, c'est toujours le bon moment. Allez, salut les amis.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.